Aujourd'hui, dans Réponse avec Belle Esconley.
Lorsque nous faisons preuve de favoritisme, au lieu d'avoir la perspective de Dieu, nous devenons, comme le dit Jacques de Quatre, des juges au mauvais raisonnement. Nous commençons à considérer les gens comme des marchandises, plutôt que comme des personnes créées à l'image de Dieu, qui méritent notre temps, notre contribution et notre amour. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Nous allons commencer en Jacques 2, 1 à 4. Il est écrit, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Il dit que notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ devrait être libre de toute partialité, de tout favoritisme à l'égard d'autres personnes. Il ne s'est pas contenté de dire cela. Il a ajouté quelque chose d'autre. Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Pourquoi insère-t-il soudain ce titre « Notre glorieux Seigneur » dans une phrase comme celle-ci? Je pense que c'est pour rappeler que le Seigneur a tout créé. Il possède tout, il est au-dessus de tout. Et pourtant, il vous a considéré et il m'a considéré. Il nous a élevés, il nous a bénis. Il ne nous a pas négligés, il ne nous a pas méprisés. Il a fait attention à nous. Nous devrions donc agir de la même façon envers les autres, plutôt que de faire preuve de favoritisme. Agissons comme ce glorieux Seigneur a agi envers nous. Il donne un exemple ici. Il s'agit d'une situation économique entre riches et pauvres, déterminée par la façon de s'habiller d'une personne. Certains vont à l'église pour fermer les yeux, d'autres pour regarder les vêtements. Jacques utilise l'exemple d'un homme qui arrive avec un anneau d'or au doigt et des habits somptueux. Tout en lui indique qu'il se porte bien et qu'il est prospère. Quelqu'un d'autre arrive et tout en lui indique qu'il n'est pas aussi prospère. Il dit qu'il ne faut pas accorder un traitement de faveur à celui que l'on perçoit comme étant riche. Mais cela pourrait s'appliquer à toute autre chose, comme le sexe, masculin ou féminin, ou à quelque chose d'aussi insensé que la façon dont quelqu'un se coiffe. Au lieu de l'exemple des riches et des pauvres, il aurait pu donner celui de la race, de l'âge, de l'apparence physique. Quelqu'un de séduisant serait traité différemment de quelqu'un qui ne l'est pas autant. Celui des capacités physiques, quelqu'un qui pratique bien un sport ou qui chante bien, la popularité. Tu es connu, nous allons te traiter avec plus de dignité que la personne qui n'est pas connue. Il peut s'agir de différences culturelles et ainsi de suite. Pourquoi est-ce si mal? Pourquoi le favoritisme est-il si préjudiciable? Tout d'abord, il a dit, « Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. » Ces deux choses ne peuvent pas être associées. Vous ne tiendrez pas votre bébé et un serpent à sonnette en même temps, parce que l'un est pur et l'autre est un poison. Il en va exactement de même pour notre foi en Jésus-Christ et le favoritisme. C'est très préjudiciable. Premièrement, c'est mal parce que cela constitue une désobéissance directe au commandement de Dieu. Il a dit au verset 1 du chapitre 2, « Ne le faites pas ». En Jacques 2,9, il est écrit, « Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. » C'est un péché. Vous êtes coupable aux yeux de la loi de Dieu et nous savons que le péché empoisonne notre propre âme. Les Écritures disent qu'il agit comme du levain. Il affecte les autres membres de la communauté croyante et c'est certainement une porte ouverte au diable. Les versets précédents, 1 Timothée 5:21, parlent de différents groupes d'âge. D'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes âgées, de personnes occupant des positions différentes. Et il est question de la manière de traiter chaque groupe différent. Puis il est dit ceci en 1 Timothée 5:21. « Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. » En Lévitique 19:15, le Seigneur dit « Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements, tu n'avantageras pas le faible et tu ne favoriseras pas non plus le grand, mais tu jugeras ton prochain avec justice. » Certains ne font pas preuve de favoritisme à l'égard des riches, mais bien à l'égard des pauvres, et c'est tout aussi répréhensible. Dans notre société, et plus particulièrement dans notre pays, certaines personnes en position d'autorité estiment que certaines lois ne devraient pas s'appliquer aux pauvres. Ils peuvent voler ou commettre un crime, et nous disons, nous ne devrions pas appliquer la loi à eux parce qu'ils sont pauvres. Non, Dieu dit dans les Écritures que la loi doit s'appliquer à tous de la même manière. Certaines personnes n'aiment pas cela, mais c'est ce que Dieu dit être juste. Le péché du favoritisme n'est pas seulement préjudiciable pour ceux contre qui il est commis, mais il l'est aussi pour celui qui le commet. Premièrement, parce que le péché nous sépare manifestement de Dieu. Mais ce péché est de nature très progressive. Il fonctionne comme un cancer malin qui ronge la conscience d'une personne jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus rien du tout. Proverbe 28:21 dit « Il n'est pas bon de se montrer partial, pourtant des hommes sont prêts à la transgression en échange d'un morceau de pain. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'au début, il fallait peut-être un gros pot de vin ou un gros cadeau ou la promesse d'une faveur future pour amener une personne à être partiale ou à faire preuve de favoritisme. Mais une fois qu'elle l'a fait, en peu de temps, elle fera preuve de favoritisme pour un morceau de pain. Sa conscience est tellement affaiblie dans ce domaine qu'il ne lui faut presque plus rien. Alors qu'avant, il lui fallait un gros pot de vin ou quelque chose de très important. La spirale vers le bas va très, très vite une fois qu'une personne commence à pratiquer ce péché. Lorsque ce péché du favoritisme se trouve parmi les croyants, deuxièmement, il donne au monde une vision déformée de Dieu. La Bible dit en 2 Corinthiens 3 que nous sommes des lettres vivantes connues et lues de tous les hommes. Vous êtes la seule Bible que certaines personnes liront. Désirez-vous que des membres de votre famille soient sauvés? Ils lisent la Bible tout le temps, c'est vous. Désirez-vous amener des collègues de travail à Christ, qu'ils soient touchés? Ils lisent la Bible, c'est vous. Nous sommes des lettres vivantes connues et lues de tous les hommes. Nous sommes la progéniture de Dieu, ses enfants, ses ambassadeurs. La Bible dit en Éphésiens 5 que nous devons imiter Dieu comme ses enfants bien-aimés. En gardant cela à l'esprit, écoutez ce que disent les Écritures de notre Père Céleste. Job 34:19. Lui, il ne favorise pas les chefs et ne privilégie pas le riche face aux pauvres, parce que tous sont l'œuvre de ses mains. Actes 10:34 et 35 dit « Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Le grand leader indien, Mahatma Gandhi, était très intrigué par le christianisme, les revendications et les enseignements de Christ. Il était à la recherche de Dieu. Il avait faim spirituellement. Il a décidé d'étudier toute la question du christianisme et du salut. Il s'est rendu dans une église, mais un huissier l'a bloqué à l'entrée. Il lui a dit « Vous pouvez rester debout au fond, mais vous ne pouvez pas prendre de chaise, c'est réservé aux Européens. » Gandhi a répondu « Cela ressemble beaucoup au favoritisme dont fait preuve le système indien des castes, qu'il détestait. » Il est parti et n'est jamais revenu. Bien sûr, il est devenu l'un des plus grands leaders moraux du monde. Aujourd'hui encore, plus d'un milliard de personnes sur la planète vénèrent Gandhi. Il a passé la majeure partie de sa vie à répandre l'hindouisme dans toute l'Inde. À quel point l'histoire aurait-elle pu être différente si Lorsqu'il est arrivé parmi le peuple de Dieu, il avait trouvé un accueil chaleureux par opposition à la puanteur du favoritisme. Comme avec Gandhi, et cela nous amène au point suivant, la pratique de la partialité et du favoritisme peut empêcher des hommes et des femmes de venir à Christ. Du côté de l'Église, si nous regardons les vêtements de quelqu'un et le type de voiture qu'il conduit, nous ne tenons pas vraiment compte de son âme et du fait que les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres ont besoin d'être sauvés. Beaucoup de membres de l'Église honnête verront les portes de l'enfer s'ouvrir pour eux. Ils ont donné leur argent, mais ils n'ont jamais donné leur cœur à Christ. Ils ont un siège au conseil des diacres ou à un autre comité de l'Église en raison de leurs dons importants, mais ils n'auront pas de siège au repas de noces de l'agneau parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Que Dieu ait pitié des bergers qui prennent soin du portefeuille de ces personnes et non de leur âme. Cela vaut la peine d'y réfléchir. Voyons le point de vue de la personne qui a soif de Dieu et qui cherche Dieu. Si elle entre dans l'Église, je sais que ce n'est pas une coïncidence que certains d'entre vous soient ici aujourd'hui. Vous ne seriez pas là si votre cœur n'avait pas soif de Dieu. Mais il est parfois difficile de regarder au-delà de certains chrétiens que vous connaissez et de vraiment considérer le christianisme. Quelqu'un entre dans l'Église et y trouve des jeux politiques pour des positions, du favoritisme et de la partialité, tout comme dans le monde, et cela constitue un énorme frein. Cela nous amène au quatrième point. Le péché du favoritisme peut ouvrir la porte à la jalousie et aux querelles dans la famille de Dieu. Poursuivons notre lecture en Jacques 3,16 où il est écrit « En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. » Verset 17, un contraste important. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Lorsque le parti pris est éliminé, il fait place à la douceur, à la paix, à la compassion et aux bons fruits. Mais mon ami, le favoritisme amène avec lui tous ses cousins germains. Quand il y a du favoritisme, il y a de la méchanceté, de la confusion, de l'égoïsme et de la jalousie. Ils sont tous indissociables de Monsieur Parti Pris. Nous connaissons tous l'histoire de Genèse 37. Je vous lis les versets 3 et 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Cela a déchiré la famille. Il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû se produire à cause du favoritisme de papa. Je me déplace beaucoup dans les cercles ecclésiastiques, à la fois ici et dans différents endroits du monde, et j'ai vu cela se produire à de nombreuses reprises. Le pasteur d'une grande église prospère et développée décide de nommer son fils en tant que leader de l'église. Ce n'est pas une mauvaise chose, car Dieu se sert des familles. On retrouve ce principe dans toute la Bible. C'est une chose quand le garçon a les qualités requises, mais c'est quelque chose d'entièrement différent quand il ne les a pas. Et tout le monde sait si l'enfant n'est pas à la hauteur. Cela peut ouvrir la porte à la jalousie et aux querelles au sein du peuple de Dieu. Cinquièmement, cela nous empêche d'avoir la perspective de Dieu. La Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je pense que si nous prions, Dieu peut nous montrer des choses qui ne sont pas facilement observables à première vue, par les choses pour lesquelles nous avons tendance à avoir des préjugés. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Nous ignorons parfois ce que nous avons entre les mains si nous fondons tous nos jugements sur nos préjugés et nos partis pris. J'ai déjà raconté à de nombreuses reprises que j'avais été sauvé lors d'une mission de rue. J'étais vraiment mal en point à bien des égards, mais Jésus s'est emparé de moi et m'a changé. J'ai commencé à fréquenter une petite église pentecôtiste et la plupart des gens de l'église m'évitaient complètement. J'ai immédiatement compris que c'était parce qu'ils avaient peur de moi. Je ne leur ressemblais pas et je venais manifestement d'un monde complètement différent du leur. La plupart d'entre eux étaient plus âgés que moi et ils avaient peur de moi. Je comprenais cela. Mais quelques rares personnes étaient gentilles avec moi. Une personne en particulier m'a offert des livres et m'a aidé à répondre à certaines de mes questions. Elle a tout fait pour m'aider. Un membre de l'église était le directeur de l'école chrétienne. Il ne s'agissait pas seulement de la seule école chrétienne de cette ville, mais la seule école chrétienne d'un grand nombre de villes. C'était un chrétien bien connu et très respecté. Il a pris à part la personne qui m'aidait et lui a dit « Écoute, juste un petit conseil, ce Bayless, ne perdez pas votre temps avec lui. C'est une cause perdue. Il n'arrivera jamais à rien, je vous le dis, il n'arrivera à rien. Vous perdez votre temps. Si vous voulez aider quelqu'un, trouvez quelqu'un d'autre. C'est une perte de temps totale, ne vous fatiguez pas. Je suis heureux que Dieu ait vu quelque chose de différent dans mon cœur que ce que cet homme a vu. Lorsque nous faisons preuve de favoritisme, au lieu d'avoir la perspective de Dieu, nous devenons, comme le dit Jacques de 4, des juges au mauvais raisonnement. Nous commençons à considérer les gens comme des marchandises, plutôt que comme des personnes créées à l'image de Dieu, qui méritent notre temps, notre contribution et notre amour. Un jour, Jeannette et moi étions dans un centre commercial. Nous participions à des réunions dans un autre état et j'avais besoin d'un costume. Je portais un short, des tongs et un t-shirt et nous sommes entrés dans un magasin pour hommes. Personne ne voulait m'assister. Je voulais acheter un beau costume que j'avais trouvé. Ils me voyaient et détournaient les yeux. Certains vendeurs ne faisaient rien et ne me prêtaient pas attention. Je sais qu'ils travaillent à la commission, mais ils ne voulaient même pas me parler. Nous sommes partis pour aller à la réunion. De retour à l'hôtel, j'enfile un costume. Nous allons à la réunion et à une autre le lendemain. Après ces réunions, je dis « Chérie, retournons dans ce magasin, je vais acheter ce costume. » Cette fois, j'entre dans le magasin en costume. Avant même d'avoir franchi le seuil de la porte, trois vendeurs se disputaient pour savoir qui allait m'assister. Ces mêmes vendeurs, qui ne m'avaient même pas regardé la veille, voyaient maintenant des signes de richesse. Ils ont juste vu mon costume. Que Dieu ait pitié de nous si nous commençons à considérer les gens comme des clients. Nous sommes en mauvaise posture spirituelle lorsque nous commençons à considérer les gens de cette manière. Nous en arrivons à Jacques 2:5. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Je ne sais pas si c'était à l'écran, je n'ai pas regardé, mais dans votre Bible, vous remarquerez que les mots pour les rendre sont en italique. Chaque fois que des mots sont en italique dans la Bible, c'est pour une raison bien précise. Cela signifie littéralement que les traducteurs veulent que vous sachiez qu'ils ont ajouté ces mots. Ils ne figurent pas dans les manuscrits originaux, mais ils les ont ajoutés pour des raisons de clarté. Lisons ce même verset sans l'ajout des traducteurs. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, riches dans la foi ? Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient pauvres. Nous avons déjà lu que Dieu ne fait pas de favoritisme envers les pauvres ou les riches. Il les a choisis parce qu'ils étaient riches dans la foi. Il les a choisis en raison de leur volonté d'obéir. Jésus dit, « Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. » Il a donné son royaume à ceux qui l'aiment. Il a choisi les pauvres parce qu'ils sont riches dans la foi. Et honnêtement, l'Évangile a tant à offrir aux pauvres. Il valorise ceux que le monde considère comme sans valeur. Il accueille ceux que le monde rejette. En même temps, l'Évangile impose de grandes exigences à tous les croyants, que les riches pourraient considérer plus que les pauvres. Car lorsque Jésus devient le Seigneur de votre vie, il doit aussi devenir le Seigneur de votre argent. Vous devez adopter la position suivante. Seigneur, tu m'as tout donné. Je ne suis qu'un intendant. Ce sont tes ressources et tu peux y avoir accès à tout moment. Les riches vont peut-être y réfléchir plus que les pauvres. Lisez l'histoire du jeune riche. Il voulait que Jésus soit le Seigneur de sa vie, mais pas de son argent. Il s'en est allé tout triste parce qu'il possédait de grandes richesses, ou plutôt il s'en est allé tout triste parce que les grandes richesses le possédaient. Dieu ne fait pas de favoritisme à l'égard des pauvres. Il les a choisis parce qu'ils étaient riches dans la foi. Ils ont répondu par la foi au message, alors que d'autres l'ont rejeté. Mais il illustre le fait que les choses importantes du point de vue du ciel ne sont pas ce qui pèse lourd sur la balance de la terre. Et de la même manière, ce que le monde estime le plus est considéré comme sans valeur, selon les normes célestes. Il poursuit en Jacques 2, 6 et 7. Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Il s'agit d'une observation générale. Apparemment, ces églises ont fait preuve de favoritisme et de partialité à l'égard de ceux qui, en général, les ont le plus opprimés et leur ont fait le plus de mal. C'est un peu comme un pasteur qui passe 90% de son temps à essayer d'apaiser les membres de l'église qui sont en phase terminale de mécontentement, tout en ignorant les fils et les filles fidèles que Dieu utilise pour construire la maison. Ce berger n'utilise pas son temps à bon escient. Quelle est donc la réponse à tout cela? Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale d'après les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Nous ne voulons pas être jugés en fonction de notre apparence extérieure, mais en fonction de notre caractère, de notre éthique de travail et de l'intention de notre cœur. Si vous traitez les autres ainsi, vous faites bien. Jacques dit que cela vous reviendra. Chers amis, dans le royaume de Dieu, écoutez-moi. Le riche et le pauvre, l'érudit et le simple d'esprit, l'héritière et la prostituée, le moral et l'immoral, le philosophe et le paysan doivent tous passer par la même porte et emprunter le même chemin. C'est par la foi en Christ. J'ai lu une histoire récemment à propos d'un prédicateur suisse. Il s'appelait César Milan. Il était à Londres et avait été invité dans une grande maison prestigieuse à l'occasion d'une grande production musicale. Plusieurs personnes chantaient et jouaient de la musique. Une femme qui avait séduit le public londonien à l'époque a joué, chanté, a été ovationnée. Les gens se déchaînent et la félicitent. Ce prédicateur César Milan se fraye un chemin à travers la foule lorsque celle-ci se calme un peu et s'approche d'elle. Il attire son attention et lui dit « Je n'ai pas pu m'empêcher de penser pendant que vous chantiez que si vous consacriez vos talents et vous-même à Christ, ce serait un grand bienfait pour le royaume. Mais pour l'instant, vous n'êtes qu'une pécheresse coupable. Tout comme le pire ivrogne de la rue ou les femmes qui vendent leur corps dans les quartiers chauds. Mais si vous venez à Christ tel que vous êtes, il vous purifiera et vous changera. » Elle était extrêmement vexée. Elle lui répondit, « Monsieur, vous êtes très insultant. » Il a répondu, « Je ne voulais pas vous offenser, madame, je suis désolé. Mais je prie pour que le Saint-Esprit vous convainque. » Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Elle se tournait et se retournait dans son lit. Finalement, Charlotte Elliott se glissa hors de son lit, se mit à genoux et accepta Jésus comme son sauveur. Cette nuit-là, en 1835, elle écrivit les paroles de l'une des chansons les plus populaires au monde, « Tel que je suis ». Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné, sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Mon ami, nous devons venir tel que nous sommes. Nous ne pouvons pas faire étalage de nos bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas faire étalage de nos nobles actions ou nobles intentions. Nous devons venir tel que nous sommes, en toute confiance. Jésus a payé le prix, l'innocent pour le coupable. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si vous me regardez en ce moment. Dieu essaie d'attirer votre attention. Il veut vous purifier et il veut vous donner une nouvelle vie. Il ne veut pas vous donner un tas de rituels, de règles, de règlements. Il veut établir une relation avec vous. Jésus a dit, « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, je ne le mettrai pas dehors. » Peu importe ce que vous avez fait que vous n'auriez pas dû faire ou ce que vous n'avez pas fait que vous auriez dû faire, venez à lui tel que vous êtes. Invoquez le nom du Seigneur et soyez sauvés.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.